Sur la Terre, il y a environ 2 millions d'espèces qui ont été décrites. Et les sociétés humaines, dans leur ensemble, c'est une seule espèce, Homo sapiens. Un pour 2 millions. Nous devrions donc être particulièrement insignifiants, mais pourtant nous sommes tout sauf insignifiants. Les sociétés humaines ont domestiqué les animaux, ont sélectionné les plantes pour les rendre plus productives, ont transformé le vivant, y compris génétiquement, et finalement bouleversé l'intégralité du système Terre. Donc nous sommes vraiment tout sauf insignifiants. Et donc aujourd'hui, au cours de cette présentation, je voudrais non pas vous parler des futurs, ce qui est un peu étrange pour ce colloque dont l'objet est de parler des futurs, mais je vais essayer de faire un rapide survol de la biodiversité marine, de son état, des pressions qu'elle subit et des réponses qui ont été jusqu'à ce jour documentées. Je voudrais aussi tout simplement vous rappeler ce qu'est la biodiversité, parce que force est de constater qu'on la réduit souvent au nombre d'espèces. On parle de la biodiversité et automatiquement on a le nombre d'espèces qui nous vient en tête. Or, dès la définition et l'acceptation de ce mot, il était clair que la biodiversité devait recouvrir l'ensemble des formes de diversité du vivant, que ce soit la diversité intraspécifique, la diversité, donc intraspécifique, la variation qu'il existe entre les individus d'une même espèce, la diversité effectivement des espèces, cette fameuse biodiversité réduite donc au nombre d'espèces qu'on appelle la richesse spécifique ou la diversité taxinomique, et puis également la diversité des écosystèmes. La biodiversité est en fait faite de multiples composantes, et je pense que c'est important vraiment de garder ça en tête, et donc il existe aussi un ensemble de variables pour la décrire. Ainsi, à côté de la diversité taxinomique, donc le nombre d'espèces, on va trouver la diversité phylogénétique, qui traduit la proximité évolutive entre les espèces, mais également la diversité fonctionnelle, la diversité des traits, des propriétés, des caractéristiques des espèces, et la diversité génétique, donc la variation génétique qu'il existe entre les individus d'une même espèce. Et c'est vraiment, en fait, ce corpus de composantes et de variables qui est à même de décrire réellement la diversité du vivant dans toutes ses acceptations. Alors, la biodiversité marine, si maintenant j'oublie la biodiversité d'une façon générale, mais je me concentre sur la partie marine, elle est intéressante parce qu'elle présente des singularités. Et la première d'entre elles, et là, ça renvoie complètement aux discussions que nous avons eues dimanche sur l'imaginaire et les perceptions. Il faut bien garder en tête que c'est pour l'essentiel un monde qui est complètement caché à nos yeux. Évidemment, vous savez tous, 71% de la surface des océans, de la Terre, ce sont des océans, mais également, la très grande majorité de cet océan se trouve à des profondeurs qui sont non accessibles, sauf avec des moyens technologiques très élaborés, à l'homme. 84% au-delà de 2000 mètres de fond. Donc ça renvoie donc à ces perceptions que nous avons, mais ça renvoie également à autre chose auquel on est confronté en tant qu'écologue ou biologiste de l'évolution, ou biologiste tout court, c'est que force est de constater qu'on doit gérer un certain nombre de lacunes de connaissances parce que du fait de cette difficile accessibilité et de ce fait que ce monde est caché, invisible pour une grande part à nos yeux de façon directe. Alors, malgré ces lacunes pour décrire l'état de la biodiversité, on sait quand même un certain nombre de choses. Et le premier élément, c'est que, en comparaison de la biodiversité en milieu terrestre, la diversité taxonomique, donc le nombre d'espèces, semble à ce jour relativement peu élevé. On a décrit de l'ordre de 241 000 espèces marines. Alors avant je disais 242 000, puis je suis allée voir rapidement sur la base de données de référence et en fait c'est un peu descendu. Donc voilà, ça rend le chiffre plus compliqué à dire à l'oral. Mais donc voilà, on est de l'ordre donc en gros de 240 000 espèces marines. En comparaison de ce chiffre que je vous donnais tout à l'heure de 2 millions d'espèces au total décrites. Donc c'est une petite fraction. Il y a beaucoup de débats pour savoir si la diversité marine est intrinsèquement faible. Et il y a des raisons pour pouvant expliquer qu'elle soit plus faible qu'en milieu terrestre. Notamment le fait qu'il y ait un relativement faible endémisme, par rapport au milieu terrestre, et, que les organismes sont capables de mobilité, qu'ils couvrent des espaces plus grands, et aussi que du fait de crises majeures d'extinction, en fait, la plupart des clades, des grands groupes qui existent aujourd'hui, sont relativement jeunes. Donc la diversification n'a pas atteint les niveaux observés en terrestre. Néanmoins, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'en fait, cette biodiversité, là aussi au sens taxonomique, hein, une richesse spécifique, a été largement sous-estimée, pour les mêmes raisons que celles que je vous disais au préalable, à savoir que l'accessibilité, la vision de ce monde nous est extrêmement réduite. Et donc, on pense que effectivement, la diversité marine en nombre d'espèces a été sous-estimée parce qu'il y a des milieux qu'on connaît mal, mais aussi parce qu'il y a des groupes entiers qui nous échappent un peu, bactéries en particulier, virus, enfin tous les tout petits micro-organismes qui sont relativement encore mal décrits. Et puis également parce qu'en milieu marin, il y a un petit phénomène qu'on appelle le problème des espèces cryptiques, qui sont très très communes en milieu marin par rapport au milieu terrestre. Ces espèces cryptiques, ce sont des espèces qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau, mais qui, en fait, sont vraiment des espèces distinctes évolutivement, mais qu'on a rassemblées, en fait, sous un même nom. Donc, premier élément de singularité. Le second, qui est un peu lié à ce que je vous disais, d'ailleurs, c'est la diversité phylogénétique qui est absolument remarquable. Il y a six règnes du vivant qui se sont trouvés en mer, certains particulièrement bien représentés en milieu marin, notamment ce qu'on appelle les archées, qui sont des prokaryotes. Et en fait, il y a aussi de nombreuses lignées et de nombreux phylums qui sont spécifiques au milieu marin, notamment certains qu'on connaît très bien, comme les oursins, les échinodermes. On ne les trouve qu'en milieu marin. Et on découvre encore, jusqu'à récemment, on a découvert de nouvelles lignées évolutives en milieu marin, par exemple, quelque chose qu'on appelle les Asgard, qui sont vraiment une lignée évolutive à part, qui a été découverte dans les années 1980. Autre singularité, je parle maintenant de la diversité des écosystèmes, donc toute une diversité d'écosystèmes pélagiques, benthiques, donc dans la colonne d'eau, sur le fond, et puis également des systèmes assez uniques, tels que les écosystèmes dits chimiosynthétiques, qui sont basés donc sur un processus qu'on appelle la chimiosynthèse, qui est en fait l'alternative dans un monde noir, où la lumière n'accède pas, à la photosynthèse pour la production de carbone organique. Et enfin, dernière composante dont je vous ai parlé, la diversité génétique. Là aussi, c'est assez singulier parce qu'on va trouver un très, très, très grand nombre d'espèces qui ont des caractéristiques, des propriétés biologiques, telles que de grandes tailles de population, une très forte fécondité, qui vont leur conférer en fait une diversité génétique assez grande. Et ça, c'est un élément important dans la mesure où la diversité génétique d'une espèce, ça forme un peu le carburant sur lequel les processus adaptatifs vont pouvoir se mettre en place. Donc j'espère vous avoir illustré un peu un certain nombre de singularités de cette biodiversité. Et maintenant, je vais passer au deuxième thème, qui est, on a une biodiversité marine originale, singulière, mais qui subit des pressions. Et quelles sont ces pressions? Là, je m'appuie sur les travaux de l'IPBES, auxquels j'ai eu le plaisir de participer, et qui ont travaillé à partir d'une catégorisation de 5 facteurs de pression directe, qui sont donc... il y a un petit... Alors, le milieu marin, il est en bas, là, c'est le petit graphique du bas. Vous voyez la flèche, oui. Et donc, ces 5 catégories de pression liées aux activités humaines, elles ont toutes, comme vous le verrez, des impacts importants sur la biodiversité marine. Par ordre, pour le moment, de ce qui semble être, il y a plein de guillemets et plein de pondérations sur ma phrase, par ordre d'importance en termes d'impact, il semblerait que pour le milieu marin, à l'inverse de c'est pas le cas en milieu terrestre, le premier facteur d'impact, la première pression qui s'exerce est l'exploitation des ressources naturelles. Évidemment, on pense aux effets de la pression de pêche. Et sur ce chapitre, je laisserai mes collègues vous expliquer tout en détail cet après-midi. Le second facteur auquel peut-être on pense moins, en fait, c'est le changement d'usage des terres et des mers. Et en particulier, ce qu'on appelle l'artificialisation ou l'urbanisation. Et là, ça renvoie complètement aux discussions que nous avons eues hier, ainsi qu'aux présentations que nous avons eues hier. Une proportion très importante de la population humaine vit à proximité des côtes. Et les activités qui y sont menées ont des impacts directs sur le monde vivant, sur ces zones côtières. Ainsi, pour vous donner un exemple, les fertilisants qui sont issus des activités notamment agricoles et industrielles, donc activités humaines, entraînent des zones mortes qu'on considère comme étant, en termes de des zones mortes anoxiques, sans oxygène. On a parlé un petit peu de ce déficit d'oxygène hier, qui sont équivalents à la surface du Royaume-Uni. Troisième facteur relevé, le changement climatique. Donc ça, inutile de vous en convaincre. On a eu hier les présentations d'Annie puis de Bonnery qui nous ont largement documenté ces effets, changement climatique, élévation des mers. Donc un moteur de pression global. La pollution, qui a mis du temps à émerger dans les préoccupations, mais qui est aujourd'hui assez centrale. Qui n'a pas entendu de la pollution, notamment par les plastiques, mais il y a aussi également tous les autres types de pollution chimique et par les contaminants. Et enfin, les invasions biologiques, donc ces transferts, transports d'espèces par les activités humaines à travers les océans. C'est ce dernier, là aussi, a émergé assez tardivement dans les préoccupations, mais pourtant, on sait que ça a été multiplié par 4, par exemple, en Méditerranée, entre 1970 et 2012. Donc, 5 grandes catégories de pression. Et là, je me réfère aux derniers travaux de l'IPCC, qui s'est également emparé de ce sujet de la biodiversité, pour souligner que de toutes les évaluations scientifiques réalisées à ce jour, il apparaît qu'en fait, aucun écosystème, et quand je dis aucun écosystème, je parle aussi des grands fonds, bien entendu, ou aucun biome n'est épargné par ces impacts des activités humaines, qu'ils soient liés au changement climatique, avec toutes ces déclinaisons, augmentation de la température des eaux, vagues de chaleur extrêmes, augmentation du niveau de la mer, etc., ou non liés au changement climatique, donc ces facteurs dont je vous parlais, dégradation des habitats, pollution, invasion, etc. Et en fait, la taille des ronds indique la force, l'importance de l'impact, et la couleur bleu marine, c'est un niveau de confiance très élevé dans les impacts. Et il suffit de regarder tous ces ronds un peu partout, que ce soit sur des systèmes coralliens ou des systèmes d'herbiers de Posidonie ou autres plantes, où les régions évidemment polaires sont affectées par l'ensemble donc de ces pressions liées au climat, mais également par ces autres pressions que je vous indiquais tout à l'heure. On a donc un schéma qui est assez attristant, on va dire. Mais il faut bien voir aussi qu'il y a une certaine variabilité dans l'étendue et l'impact exercé par ces pressions. Les intensités de ces pressions sont variables selon les régions du monde. Et ça, c'est vrai pour chaque pression individuelle, comme par exemple ici, illustré avec l'artificialisation des milieux. Dans cet article, qui est vraiment un article que j'ai trouvé très intéressant. Il est souligné un fait qui, je pense, n'est pas forcément très bien connu, que les impacts directs ou indirects de l'artificialisation des milieux, en fait, affectent des superficies pour les zones économiques exclusives qui sont du même niveau que les surfaces des villes sur le continent terrestre. Donc, il y a vraiment un parallèle qui est très fort. Et en fait, pendant, là encore, assez longtemps, je pense qu'on a un peu sous-estimé cet impact artificialisation, urbanisation, qui, effectivement, exerce des dommages directs, la destruction des habitats naturels, bien évidemment, mais aussi toute une série de pressions indirectes au travers, notamment, de la pollution sonore ou de la pollution lumineuse ou de la pollution chimique diffusive. Et l'impact estimé est sur une surface d'environ 3 millions de kilomètres carrés. Donc, on commence à avoir des chiffres significatifs. Alors, derrière ce mot d'artificialisation, de construction marine, se cache plein d'éléments. Néanmoins, dans cette étude, les auteurs soulignent qu'aux trois quarts, 71%, c'est en fait en lien avec l'aquaculture. Juste derrière arrivent les infrastructures portuaires. Désolé Antoine. Et ensuite, les récifs artificiels. Donc voilà un peu la gradation de ce type de construction avec des impacts très forts et qui sont, donc, comme je disais, avec une intensité variable. L'intensité de couleur, plus c'est sombre et plus l'impact est important. Et vous voyez, en particulier, extrêmement fort autour de la Chine. Et là, le corollaire, c'est lié aux fortes activités aquacoles qu'il existe dans cette région de l'Asie. Alors donc, il y a une intensité variable par pression, mais il y a également une intensité variable quand on cumule les pressions. En effet, ces pressions, elles n'agissent pas de manière indépendante et on travaille maintenant avec ce qu'on appelle la notion d'impact cumulé, puisque toutes ces pressions agissent possiblement au même moment, au même endroit. Et en termes d'impact cumulé, vous avez ici une map monde qui vous montre le score d'impact. Donc plus c'est rouge et plus l'impact, le nombre de pressions qui s'additionnent, qui se cumulent est important. Et donc là encore, on va retrouver l'Asie, mais on va retrouver l'Europe du Nord, on va retrouver l'Atlantique Ouest dans sa partie équatoriale et tropicale. Donc là aussi, il existe une intensité donc très variable sur les mers du globe et donc sur la vie qui se trouve dans ces océans. Et ce cumul de pression, il n'est pas seulement additif, il ne s'additionne pas, il y a des effets amplificateurs. Je vous donne un exemple avec la combinaison changement climatique, urbanisation des milieux et invasion biologique. Il a été montré que l'impact écologique des espèces invasives était particulièrement accru là où les populations humaines étaient les plus denses, donc en lien avec l'urbanisation, et là où les autres types d'impact, et en particulier le changement climatique, étaient le plus important. Donc il y a des effets comme ça multiplicateurs qui se font entre ces différentes pressions. Mais pour résumer tout ce que je viens de dire sur ce chapitre, moi je soulignerai juste un chiffre qui a été donc mis en avant par la dernière évaluation de l'IPBES, à savoir que globalement, 66% de la surface des océans et 77% des zones économiques exclusives sont soumis à ces pressions. Et donc on est sur des chiffres qui sont très, très, très proches de ce qui est documenté sur le continent, avec donc 75% des surfaces qui sont impactées en milieu terrestre. Il n'y a que les zones humides où là, c'est encore un peu plus élevé que la moyenne globale du continent terrestre. Donc, nous avons une biodiversité marine qui est singulière, qui est soumise à de multiples pressions. Donc, naturellement, la question qui suit, c'est quelles sont les réponses de la biodiversité marine à ces pressions. Alors, les réponses... J'utilise ce mot de réponse pour ne pas parler d'impact, mais voilà, on peut utiliser le mot d'impact. C'est vraiment différents types de changements. Et des changements qui sont réalisés au niveau des populations, des espèces, des communautés, donc à tous ces différents niveaux d'organisation de la diversité biologique, et dans différents groupes taxinomiques. Donc là, je vous montre par exemple les études qui ont été réalisées, qui ont documenté des changements. Donc ce n'est pas des projections, c'est vraiment ce qui a été observé pour l'Atlantique Nord et les changements qui ont été observés depuis les années 1950. Et cela affecte aussi bien des algues que des invertébrés ou que des particules planctoniques, des organismes planctoniques, phytoplancton, zooplancton, les poissons, les oiseaux marins. Et ce qui a été le plus fortement documenté, ce sont des changements de distribution des organismes, des changements d'abondance, c'est-à-dire de taille des populations, et des changements de phénologie, c'est-à-dire de décalage du cycle de vie au cours du temps. Je vais particulièrement m'attarder sur ces deux premières composantes, abondance et distribution, parce que c'est vraiment là où ont été documentés le plus de changements. Alors, les changements d'abondance, donc les changements de taille des populations pour une espèce donnée, ça marche dans les deux sens. Ce n'est pas forcément toujours des diminutions. En effet, comme vous le voyez sur ce graphique qui vous montre l'évolution des abondances pour des espèces qui ont des affinités pour des eaux froides, pour des espèces qui ont des affinités pour des eaux chaudes et des espèces cosmopolites, c'est-à-dire qui sont beaucoup plus largement distribuées, eh bien, on voit que pour les espèces d'affinités d'eau froide, on a globalement une diminution de 52% des tailles de population pour donc les... Alors, on parle de 293 espèces hein, pour lesquelles ça a été documenté. Regardez bien, à chaque fois, les petites n égales dans mes diapos, vous verrez que c'est une toute petite fraction. Néanmoins, donc pour les 293 espèces pour lesquelles il existe des données, ces espèces d'affinité d'eau froide montrent majoritairement une diminution de taille de population. En revanche, les espèces d'affinité d'eau chaude montrent, avec les mêmes proportions, une augmentation des tailles de population. Donc, on observe... et c'est beaucoup plus partagé pour les espèces cosmopolites. Et donc là, on est bien en accord avec ce qu'on peut s'attendre sous les effets du changement climatique et en particulier de l'augmentation des températures des eaux de surface. Et il y a plein de cas qui ont été très précisément documentés. Là, je vous montre juste un exemple avec deux balanes, qui sont des petits crustacés cirripèdes qui s'accrochent sur les rochers, qui sont tout petits. Et deux balanes qui ont été suivies sur des séries temporelles très longues en Angleterre. Et progressivement, l'espèce d'eau froide a vu ses populations diminuer, alors que l'espèce d'eau chaude, sur les mêmes lieux, a vu ses populations augmenter et donc entraîner un remplacement. Et je vais revenir à ce concept de remplacement un peu plus tard. En tout cas, de la même manière que les pressions sont variables, ces réponses sont également variables à l'échelle du monde. Si je prends le cas des grandes algues, grandes forêts d'algues, et que si on fait une moyenne sur l'ensemble du globe, en fait, on n'obtient ni déclin ni augmentation, c'est très stable. Mais région par région, on observe des variations significatives, soit de très fortes augmentations, soit de très fortes diminutions. Alors, évidemment, le déclin d'abondance, le déclin de la diminution de taille des populations a un effet qui est extrêmement important, c'est le risque d'extinction, bien naturellement. Donc, quelques chiffres par rapport à cette notion d'extinction d'espèces. Aujourd'hui, les données IUCN, et je les ai consultées la semaine dernière en préparant cette présentation, listent 182 espèces marines en danger critique d'extinction. Et je tiens tout de suite à souligner encore une fois ce problème de lacune de connaissance, puisque l'IUCN n'a pu réaliser une évaluation que sur 6% des 242 000 ou 241 000 d'espèces décrites à ce jour. Donc, OK, il y a 182 espèces marines en danger d'extinction, c'est peu, mais en fait, il y a très très peu qui a été évalué. En termes de menaces, qui est un autre statut dans le classement IUCN, juste en dessous le danger critique d'extinction, on considère en revanche qu'une grande part des espèces dans certains groupes pour lesquels il y a le plus de données sont largement menacées. On est à 37% pour les élasmobranches, c'est-à-dire les requins et les raies. 33 et un tiers également pour les coraux et les mammifères. Pour les invertébrés sur lesquels il y a beaucoup, beaucoup de manque de données, néanmoins, de manière, on commence quand même à avoir un certain nombre, et notamment Jung et ses collaborateurs ont montré que pour 1306 espèces pour lesquelles ils ont pu faire une évaluation, il y avait à peu près un quart pour lesquelles il y avait également des menaces très importantes. Ce que je tiens à souligner, c'est que en fait, dans les 50 dernières années, en revanche, il n'y a aucune extinction globale qui a été mise en évidence. Pour ceux qui, je crois que c'était dimanche soir, j'ai perdu un peu la notion du temps, mais ont vu le film Océan de Jacques Perrin, vous avez vu la scène finale dans le musée et la mention de l'extinction des espèces. Et en fait, les espèces dont il parle sont effectivement des espèces marines éteintes, mais qui ont été éteintes en fait sur une échelle historique, c'est-à-dire qui ont disparu entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. Mais dans les 50 dernières années, et essentiellement, juste pour dire un petit mot sur ces espèces-là, ce sont des espèces, notamment le phoque moine des Caraïbes, qui est très connu. Il y a également l'otarie du Japon. J'ai un petit doute sur les autres. Mais c'est essentiellement pour des chasses, la pêche. qu'il y a eu ces extinctions historiques d'espèces et dégradation d'habitat également. Mais donc, il n'y a pas d'extinction globale documentée à ce jour. En revanche, il existe de très nombreuses extinctions locales. Et ça me semble assez important de souligner ça. Ce n'est pas parce qu'une espèce a complètement disparu qu'il ne faut pas imaginer qu'il ne peut pas avoir des disparitions d'espèces localement, régionalement. Et ça, les extinctions locales, elles sont très importantes. On considère par exemple, je vous donne juste cet exemple-là, qu'il y a un tiers des poissons et des invertébrés marins qui auraient disparu des côtes nord-américaines. Et ces extinctions, même si elles ne sont pas globales, même si elles sont régionales, elles entraînent de nombreuses modifications. Alors bien sûr, la diminution de la diversité taxinomique, donc de la richesse d'espèces, du nombre d'espèces, mais également avec des corollaires comme la perte de diversité fonctionnelle, donc cette diversité de traits et de fonctions dont je vous parlais tout au départ. Et ça a été, par exemple, documenté pour la mégafaune marine. Alors, c'est la seule diapositive où un peu de scénario et de projection. Vous voyez dans le graphique de gauche la diminution de la richesse du nombre d'espèces par à peu près 18% sur un scénario IUCN où on prend les probabilités d'extinction sur ces statuts d'espèces qui sont... avec des statuts menacés ou en danger critique d'extinction. Et donc, on a une diminution prévue de 18%, mais également de la richesse fonctionnelle, donc de la diversité des traits et des fonctions réalisées par ces espèces, qui est de l'ordre de 11-12%. Or, ça a un impact direct sur la résilience des écosystèmes marins, dans la mesure où il y a une vulnérabilité accrue, qui est lié à cette perte de traits, à cette moindre redondance aussi, multiplicité, répétition des traits. Mais je pense que Nathalie peut-être parlera un peu de ces enjeux sur la diversité fonctionnelle. Donc finalement, on a ces extinctions locales. Et ces extinctions locales, le moteur principal, ce sont les changements de distribution. En effet, quand une espèce va répondre à une élévation des températures des eaux, si c'est une espèce qui est plutôt d'affinité d'eau froide, elle va se déplacer depuis la zone chaude vers la zone froide. Donc en arrière du front d'expansion, il y aura des extinctions. Et en avant du front d'expansion, il y aura au contraire des colonisations. D'où ça renvoie à ce que je vous montrais entre ces augmentations et ces diminutions de taille de population. Et en fait, le grand moteur de ça, ce sont ces déplacements, ces changements d'aire de distribution. Alors, ces changements d'aire de distribution, il va falloir que j'accélère un peu. Ces changements d'aire de distribution, ils sont latitudinaux, donc nord-sud. Et une des premières, ça ne cesse d'être documenté, mais une des premières études qui a permis vraiment de documenter ce fait a utilisé des séries temporelles d'observation sur des copépodes, ce sont des tout petits crustacés, et qui vivent en pleine eau. Et donc, ce graphique vous présente l'évolution de la distribution des aires de distribution pour différents groupes de copépodes, selon leur type d'environnement privilégié, depuis 1959 en haut jusqu'à 2005 en bas. Et si on s'arrête juste sur la première colonne, qui sont les espèces pseudo-océaniques des eaux tempérées chaudes, on constate... et c'est très visible, un déplacement avec ici, dans les années 1950-1980, on a un centre autour, en gros, du golfe de Gascogne. Et peu à peu, si on descend, un déplacement vers le nord de ces espèces-là. Et la vitesse de déplacement du centre de l'aire de distribution est extrêmement rapide. Pour justement ce groupe d'espèces, il est estimé à 23 km par an. Donc on est, c'est particulièrement rapide, mais c'est loin d'être une exception. Et à titre de comparaison, en moyenne, parce que sur les espèces terrestres, on observe la même chose, des modifications latitudinales avec le changement climatique, mais on est sur des ordres de grandeur qui n'ont rien à voir. Une méta-analyse réalisée sur, 1000 ou 2000 espèces terrestres a montré qu'en moyenne, donc la vitesse d'expansion était plutôt de 600, le chiffre c'était 610 mètres par an. Donc on est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur. Alors, bien sûr, ça dépend des capacités de mobilité et de dispersion des organismes. Vous avez sur ce graphique, justement, les déplacements latitudinaux selon différents groupes d'espèces marines. Les algues, des cnidaires, des crustacés. Ici, on va trouver les poissons. Ici, on va trouver le phytoplancton et ici le zooplancton. Et donc, effectivement, les chiffres les plus importants en termes de déplacement sont sur les organismes planctoniques qui vivent dans la colonne d'eau et qui ont des capacités de dispersion très fortes, donc phyto ou zooplancton et poissons. J'accélère un petit peu. Un point important en milieu marin, c'est également la troisième dimension. Et en effet, à côté de ces changements latitudinaux, on va aussi observer des enfoncements dans les profondeurs pour aller vers des eaux en particulier plus froides. Et donc, on a vraiment des observations de déplacement d'espèces vers les profondeurs. Alors, c'est une solution déjà pas pour toutes les espèces, et en plus qui pose des problèmes de ce qu'on appelle de compression d'habitat. C'est-à-dire, ces déplacements en profondeur, ils vont quand même être limités. Pour tous les organismes, par exemple, qui ont besoin de lumière, forcément, la descente ne peut se faire qu'à la limite de pénétrance de la lumière. De la même, les fonds vont limiter aussi les descentes des organismes et l'habitat. Donc, il y a des progressions sur la troisième dimension, mais qui sont forcément intrinsèquement limitées. Alors, ces conséquences de changement de distribution font que globalement, à une échelle mondiale, globale, le nombre d'espèces marines pour le moment a relativement peu évolué. Je vous disais, il n'y a pas d'extinction globale. Même régionalement, localement, le nombre d'espèces a relativement peu évolué. En revanche, la composition des communautés, les assemblages d'espèces ont fortement évolué. Et c'est ce que présente cette carte qui montre les modifications par ces couleurs. Donc plus c'est en bleu, plus les communautés ont été modifiées, de ce qu'on appelle le turnover, donc le changement. Donc les effets de remplacement de certaines espèces par d'autres. Et c'est une des conséquences qui est les plus fortes et les mieux documentées à ce jour, c'est qu'on est dans une période dans laquelle on voit comme ça des changements importants dans les espèces présentes à une échelle de ce qu'on appelle des écorégions, donc une échelle régionale assez grande. Et ces changements sont particulièrement élevés dans certaines zones, notamment vous pouvez voir dans ces régions-là. Donc, il y a l'émergence de nouveaux assemblages d'espèces et on est également dans une période un peu transitoire dans laquelle ces déplacements avec certaines espèces très cosmopolites ou des espèces qui sont en phase de déplacement vont créer une sorte d'homogénéisation à relativement grande échelle de la diversité de ces communautés. C'est-à-dire qu'on va trouver plus de similarités entre des points qui sont relativement éloignés géographiquement. Ces changements de composition des communautés, outre cette homogénéisation, ils modifient beaucoup le fonctionnement et les interactions entre les espèces, puisque de nouvelles espèces vont arriver et s'installer dans un réseau complexe d'interactions. Je vous l'illustre ici avec un exemple de relation proie-prédateur et avec l'arrivée de cet oursin sur les côtes de Tasmanie, sachant que cet oursin ne peut réaliser son cycle de vie qu'avec des températures qui sont au-delà de 12 degrés pour le développement de ses larves. Et en fait, dans la partie au nord, ici, on a donc des populations d'oursins qui sont arrivées avec le changement climatique et qui ont vu leur taille de population augmenter de manière très importante et qui n'ont pu n'être compensées par leurs prédateurs, les langoustes, que tardivement, parce que l'arrivée de cet oursin s'est faite en gros dans les années 1960, mais il y a une mise en réserve de protection donc, des langoustes, et donc par interdiction de la pêche, que dans les années 2000. Et donc c'était déjà un petit peu trop tard pour que les langoustes puissent un peu faire du contrôle des oursins, et donc ça a entraîné une diminution des forêts de grandes macro-algues dans cette région-là. Sur les populations, alors un peu plus bas sur l'aire de distribution, en revanche, les mises en réserve étaient déjà très effectives et donc la langouste a complètement contrôlé la population d'oursins et donc les populations algales ont été conservées. Donc le changement d'aire de distribution, c'est quand même ce qui est le mieux documenté, ce qui semble le plus important en termes d'impact. Et donc quand une espèce rencontre des conditions défavorables, elle a trois solutions. S'acclimater, s'adapter ou s'échapper. Et s'échapper, pour le moment, c'est ce qui semble être la réponse la plus importante. Il y a quand même un peu d'acclimatation et d'adaptation. J'en dis deux mots. L'acclimatation par décalage du cycle de vie. Ça a été bien documenté il y a très longtemps, enfin, il y a une vingtaine d'années, sur des organismes planctoniques. Pour lesquels, en fait, on a montré que le cycle de vie était décalé, arrivé plus précocement qu'auparavant, et avec un décalage assez fort, hein, qui pouvait atteindre jusqu'à 6 semaines. L'adaptation. Pendant longtemps, on a cru que les changements étaient trop rapides pour que les espèces s'adaptent évolutivement, c'est-à-dire par des changements génétiques. En fait, ce n'est pas vrai. Déjà, sur les petits organismes à cycle de vie rapide, on a des évidences d'adaptation génétique, d'évolution. Et également dans des conditions où les pressions de sélection sont très fortes. Et il y a une très très belle étude qui a été réalisée, alors c'est milieu estuarien, donc pas pleinement marin, mais sur ces poissons qui lient des estuaires très pollués aux hydrocarbures des côtes est américaines, pour lesquels il a été montré qu'il y avait eu évolution répétée, parallèle, de la même adaptation génétique pour la détoxification des hydrocarbures, qui impliquait des modifications dans une série de gènes avec des grandes délétions, des morceaux du génome qui s'enlèvent et qui ont permis en fait que les récepteurs aux hydrocarbures soient inhibés. Et donc c'était une protection contre cette pollution. Donc, en résumé, quelques constats et questionnements très rapidement. Donc, j'espère vous avoir convaincu qu'il y a réellement des changements absolument mesurables sur les différentes composantes de la diversité marine en réponse à des pressions locales ou globales exercées par les activités humaines. Changement de communauté, changement dans la diversité des traits, changement génétique, qui sont donc la base d'une réponse évolutive. Et donc la question face à différentes composantes, c'est aussi un peu finalement qu'est-ce qu'on veut gérer ou préserver. Ce n'est pas une question facile, hein, parce qu'en fait, on sait, et c'est notamment le cas dans cette étude sur des poissons, qu'il n'y a pas forcément de corrélation spatiale entre ces différentes composantes de la diversité. Là, les zones en rouge sont des zones où en fait, il y a une décorrélation entre la diversité fonctionnelle, la diversité des traits, et le nombre d'espèces. Et de la même manière, en fait, il n'y a pas forcément de corrélation entre les services écosystémiques, je pense que Nathalie en parlera, donc les services rendus par les écosystèmes, et les composantes de la diversité biologique. Donc ça, c'est la première question à laquelle on doit se heurter, se confronter. Que veut-on préserver ? Je vous ai également montré qu'il existait un fort impact du changement climatique, notamment avec ces variations, ces grands déplacements d'espèces, ces changements de communauté, avec des variations plus rapides où les isothermes ont bougé plus vite. Et en particulier, donc en bleu ici, sont les vagues d'expansion par rapport en rouge, les contractions. Donc pour le moment, on est plutôt dans quelque chose où ça s'étend. Et toutes ces observations sont en accord avec les prédictions des attendus liés au changement climatique. Donc, très fort impact du changement climatique, facteur de pression globale. Mais pour autant, il ne faut pas oublier, comme je vous le disais, les autres facteurs de pression qui ont des effets cumulatifs et avec des effets extrêmement complexes. Une très belle étude montre en fait le lien entre changement climatique et exploitation des ressources dans un réseau trophique impliquant donc des organismes photosynthétiques et donc les pressions de pêche sur les poissons d'intérêt halieutique. Et en fait, l'étude des interactions dans ce système ont montré des propriétés émergentes qui sont liées à des pressions qu'on appelle top-down et bottom-up, donc par le haut et par le bas, qui modifient complètement les interactions entre les espèces. Donc là, on se retrouve confronté à une nouvelle question. Comment on gère ? Comment on préserve avec des interactions aussi compliquées ? Alors, il y a un certain nombre de propositions hein, qui sont faites, que je vous évoque rapidement, mais peut-être on pourra y revenir dans le cadre d'une discussion plus globale. C'est évidemment prendre en compte ces pressions cumulées. Et actuellement, par exemple, il y a des stratégies de gestion de pêche qui intègrent complètement le changement climatique. Développer des réserves intégrales, certes, mais développer des réserves intégrales qui vont aussi inclure le changement climatique dans le choix de la localisation de ces aires protégées. Peut-être François aura l'occasion de nous parler un peu d'aires marines protégées. Moi, je ne l'ai pas fait. Et développer de nouvelles solutions. Vous avez beaucoup entendu parler de solutions fondées sur la nature. C'est également un point peut-être sur lequel nous pourrons discuter, puisque certaines d'entre elles sont débattues pour... à cause d'actions un petit peu interventionnistes, et il y a des propositions alternatives de libre évolution. Enfin, toutes ces réflexions, et j'en finirai là, sont amenées dans un contexte d'intensification de l'utilisation et de l'exploitation de l'océan mondial. C'est ce que Jouffray et ses collaborateurs ont appelé « the ocean claims ». Nous avons... Nous, Homo sapiens, utilisons largement les ressources terrestres. Nous nous tournons maintenant complètement vers le milieu marin et vers les océans. Nous lui demandons de nous nourrir, nous lui demandons de nous servir des minéraux, de l'énergie. Nous lui demandons de nous transporter, d'être la base de notre commerce international. Donc nous avons une aspiration, une revendication, Ocean Claims, vers l'océan qui n'a jamais été aussi importante. Et jamais aussi importante, je vous le montre avec cette figure qui sort aussi de cet article de Jouffray et collaborateurs qui s'appelle, intitulé « L'accélération bleue ». On parle d'économie bleue, mais en fait, ces auteurs parlent d'accélération bleue, qui montre, et ce ne sont pas des projections, hein, c'est du passé, hein, qui montre la trajectoire d'expansion des activités humaines entre 1970 et 2015. Donc, vous voyez, aquaculture marine, exploitation des minéraux, des grands fonds, commerce maritime, évidemment aussi aire marine protégée. Mais vous voyez cette pression accrue, cette intensification des activités humaines sur l'océan. Donc, la biodiversité marine à l'anthropocène, des changements avérés, diversifiés, continus. Si nous avons l'occasion de discuter, je pense qu'il y a vraiment un certain nombre de questions sur lesquelles on peut réfléchir, comment voir mieux ces diversités, ces différentes composantes, comment anticiper, accompagner ces changements, se poser la question de quels seront les refuges pour la diversité marine à l'anthropocène. Il y a toujours eu des refuges au cours de la vie sur Terre pour les espèces. Hier, je pense que c'était Annie Cazenave qui nous parlait de la période Wurm. À cette période-là, il y avait des refuges pour la diversité marine pendant ces périodes de grande glaciation qui ont permis la recolonisation des habitats post-glaciation. Maintenant, on peut se demander où seront ces refuges aujourd'hui. Et donc, finalement, quel sera le futur pour la biodiversité marine? Une question qui appelle peut-être à des changements de paradigme. Et changement de paradigme que je résumerai peut-être par ce petit schéma. Et aussi en disant que, et en citant en fait, changer de paradigme, ça veut dire peut-être accepter, je reprendrai le titre d'un ouvrage de Virginie Maris, un philosophe de l'environnement, ça veut dire peut-être accepter la part sauvage du monde. Je vous remercie.